On va faire un débat quasi permanent, c'est-à-dire que je vais répondre à chacune des questions, je complète un peu les réponses, je fais quelques commentaires, et au fur et à mesure, vous me posez des questions, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, mais vous prenez aussi vous prenez position sur la question, si vous allez pouvoir déborder un peu cette question. Bon, ce soir, on a appelé cette conférence, le futur traité, le NAFTA. Alors, dans la presse et dans les médias, vous trouvez plusieurs mots. Le premier mot qui a été utilisé, c'est le grand marché transatlantique, ou GMT. Il a un peu disparu, c'est comme ça qu'on l'appelait au début, puis finalement, comme ce terme ne s'est pas imposé, on l'a laissé de côté. Le terme officiel, c'est TTIPP, qui est le sigle américain. Et puis, le terme qui s'est imposé aujourd'hui, c'est NAFTA, que tout le monde utilise, donc... On a aussi repris ce thème d'AFTA qui a été plutôt utilisé par les opposants à ce traité, mais que maintenant tout le monde utilise. Alors, ce traité, bien sûr, n'est pas encore signé, il est en négociation. Donc l'objectif, c'est donc d'aboutir à un accord dans les mois qui viennent, théoriquement, ce qui n'est pas sûr pour l'instant. Alors, avant de commencer à répondre aux questions, je vais vous donner le sentiment peut-être d'être vraiment un opposant farouche au libre-échange et au commerce international. C'est vrai pour une part, mais pas sur le fond. Le commerce international, comme tout commerce, est indispensable. On ne peut pas imaginer une société où on n'échange pas. D'abord parce que ça n'a jamais existé. Vous pouvez remonter aussi loin dans le temps. Dès que les premiers hommes sont apparus sur la planète, ils ont commencé à échanger. Donc l'échange est quasi naturel, même si, bien sûr, il est très organisé. Si vous avez des portables, n'hésitez pas à les éteindre. Donc le commerce est une nécessité, parce qu'on n'est pas capable, chacun d'entre nous, de faire tout ce dont on a besoin. Et on n'y a pas intérêt, parce qu'on voit bien qu'en se spécialisant, on devient plus efficace. Et donc, on a intérêt à se spécialiser et donc échanger. C'est le cas aussi pour les pays, bien sûr. Un pays ne peut pas s'auto-satisfaire entièrement. Sinon, il n'aboutit pas, en tout cas, à tous les besoins. Alors après, on peut discuter sur ce qu'il y a besoin ou pas besoin. Je ne vais pas rentrer dans le débat ce soir. Mais en tout cas, donc, le commerce est indispensable. Ce qu'on dénonce ce soir, c'est la dérégulation de ce commerce. C'est-à-dire que là, on veut aboutir à une liberté complète de commerce sans règles. Si on va jusqu'au bout, il n'y a plus de règles. C'est la liberté complète. Quand je dis liberté, c'est la liberté de commerce. Et là, évidemment, ça peut poser un certain nombre de problèmes parce que la dérégulation complète peut amener à des aberrations, à la pollution, bien évidemment, etc., etc. Bien. Alors, que les multinationales nous incitent à aller vers ce libre-échange complètement dérégulé, on les comprend. C'est assez logique, puisque tous les étudiants qui commencent quelques études en économie apprennent que l'objectif numéro un d'une entreprise, multinationale ou pas, c'est de maximiser ses profits. Voilà le terme qui est utilisé. L'entreprise a pour objectif de faire un maximum de profits. C'est la règle du jeu. Bon, à partir de là, il faut que les politiques mettent des règles pour que cette maximisation n'aille pas contre les consommateurs, contre les travailleurs, contre l'environnement. Et c'est bien la question qui est posée ici ce soir. Alors, la première question, dont je suis maintenant les petites questions que vous avez sous les yeux. Donc, première question, les États-Unis et l'Union européenne représentent à eux deux 30% du PIB mondial, 50% du PIB mondial ou 60% du PIB mondial. Alors, vous êtes sur quoi ?
60.
C'est pas trop mal, mais c'est 50. Alors, voilà, corrigez bien votre copie parce qu'à la fin, je les ramasse. Alors, le PIB mondial actuellement, c'est à peu près... Alors, le PIB mondial, vous savez que c'est une estimation de la richesse produite chaque année. Alors, je dis bien une estimation, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, c'est tout ce qu'on produit une année donnée et donc tout ce qu'on se distribue. Car ce qu'on se distribue, c'est ce qu'on a produit. Sous forme monétaire, je ne rentre pas dans les détails, mais le PIB, c'est vraiment ce qu'on distribue. Alors, ça ne correspond pas exactement à tout ce qu'on produit, parce que les travaux domestiques, les trafics divers, etc., sont, l'économie souterraine ne sont évidemment pas comptabilisées. Il faudrait le doubler à peu près, probablement. Alors, actuellement, le PIB mondial, c'est 62 milliards d'euros chaque année. 62 000 milliards d'euros chaque année. Et donc, sur ces 62 000 milliards d'euros produits et donc distribués, les États-Unis et l'Europe en représentent à peu près la moitié. 15 000 milliards chacun approximativement, sachant que l'Union européenne est légèrement devant. Nous sommes la première puissance économique du monde, sauf qu'on n'existe pas, enfin, en tant qu'État. Mais si on rassemblait l'UE comme un véritable pays, on serait donc la première économie mondiale. Alors, ce territoire représente aujourd'hui 40% du commerce international. Donc, ce qui est évidemment énorme. Et pour la population, on ne représente que 11%. Vous voyez les décalages. 50% du PIB, 40% du commerce international et seulement 11,5% de la population mondiale, c'est-à-dire 800 000 habitants sur 800 millions, pardon, excusez-moi. Mais c'était pour voir si vous suiviez, c'est bien. Alors, 800 millions d'habitants, ça représente, vous l'imaginez, un marché absolument gigantesque. Parce que ce sont ces 800 millions d'individus qui sont de loin les plus riches sur la planète. Et donc, qui ont le pouvoir d'achat, et donc le pouvoir de commercer. Est-ce qu'il y a des petites questions sur ce premier point ?
Vas-y. Ce qui est produit dans les autres pays.
C'est-à-dire ?
Ce qui peut être produit au Niger ou dans Porto, au Manioc, ça rentre dans le pays. Mais quel pays ?
Par principe, le PIB englobe tout ce qui est produit sur un territoire donné. C'est une estimation géographique. C'est-à-dire, on prend un territoire, la France, dans ses frontières, et tout ce qui est produit sur ce territoire est compté dans le PIB. Pour la France, c'est un peu plus de 2 000 milliards d'euros chaque année. D'accord ? Y compris ce qui est produit par des entreprises étrangères. D'accord ? Les entreprises françaises qui produisent à l'étranger, c'est compté dans le PIB du pays étranger. C'est donc une estimation territoriale. À tel point que la production des ambassades de France, qui est territoire français, par définition, est comptée dans le PIB de la France, car c'est le territoire français. Bon, évidemment, on ne produit rien. Hein. Enfin, officiellement, c'est comptabilisé. Donc la valise diplomatique est comptée dedans. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la valise diplomatique, donc on ne peut pas compter.
Oui, mais il y a des richesses qui ne sont pas comptées, par contre, qui ne sont pas comptabilisées, des richesses produites qui ne sont pas comptabilisées.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr. Ouais. Bah, toute l'économie souterraine, ouais. Toute l'économie domestique, toutes les fraudes diverses. Donc, si vous voulez, approximativement, vous pourriez doubler, on suppose qu'on peut doubler la valeur du PIB. D'accord ? Mais ça, c'est distribué directement. Quand vous faites du jardin, vous produisez réellement vos pommes de terre et vous les consommez. Donc, ce n'est pas compté dans le PIB, mais c'est une vraie production. D'accord ? Bon. Pour le PIB français, par exemple, on travaille plus de temps dans les travaux domestiques, bricolage, jardinage, etc., ménage, que dans le PIB officiel. Vous travaillez plus en moyenne chez vous, en durée, que dans les entreprises. L'ensemble des Français, évidemment, il y a toutes les femmes au foyer qui en font plus que nous, à l'intérieur, si vous voulez. Mais voilà. Mais comme les heures de travaux domestiques sont moins productives, parce qu'on a moins d'équipement quand même que les entreprises, donc le doublement n'est pas compté à ce niveau-là. D'accord ? Mais si vous ajoutez l'économie souterraine et puis tous les trafics en tout genre, vous êtes sûr de pouvoir doubler très largement, car le trafic de drogue, c'est une vraie production, d'accord ? Pour un économiste, en tout cas. Comme le tabac et l'alcool, on ne fait pas la différence. Même s'il y en a peut-être, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je passe à la deuxième question.
Quand on dit que la Chine est passée devant, est-ce que c'est
alors,
le PIB ?
C'est le PIB, oui, absolument. Enfin, c'est une estimation encore, on n'est pas encore bien sûr, parce que là, c'est le PIB 2014 qu'on est en train de calculer, et nous, par exemple, en France, pour avoir le vrai chiffre du PIB 2014, on va l'avoir seulement au mois de juin. Donc là, on est dans l'estimation approximative. Mais fatalement, la Chine va passer devant tout le monde en raison de son nombre d'habitants. D'accord ? Bon, ce qu'il faut mesurer, en fait, c'est le PIB par habitant, qui est le significatif de la richesse.
Le PIB est calculé à partir de la facturation. Ouais. À partir de quoi ?
À partir de la comptabilité des entreprises, de la comptabilité officielle des entreprises.
Ça, parce que si la multinationale a son siège au Luxembourg et qu'elle fait de la fausse facturation pour une filiale en France, on a de la richesse au niveau du Luxembourg.
Absolument. Si la richesse est officiellement produite au Luxembourg, c'est compté dans le PIB du Luxembourg.
Il peut y avoir de la richesse virtuelle.
Ah ben c'est la recherche virtuelle qui se transforme rapidement en monnaie quand même. Hein. Bon, ah oui, oui. Pardon. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Luxembourg est le premier pays au monde en PIB par habitant. Je n'ai plus en tête, ça doit être 70 000 euros, je crois, par ce qui est absolument gigantesque. Alors ceci dit, ça c'est le PIB, mais il y a une partie de ces revenus qui repartent à l'extérieur. Mais ça c'est vrai dans tous les pays. Plus particulièrement aux Pays-Bas. Oh, pardon, au Luxembourg, pas aux Pays-Bas, c'est garni. Mais le meilleur dans ce domaine, ce sont en effet les Pays-Bas, c'est le Luxembourg. Deuxième question. Alors, l'objectif du TAFTA est de stimuler la croissance et l'emploi, de libéraliser le commerce international, de protéger les investissements et les multinationales. Alors, qu'est-ce que vous dites de réponse possible ?
PSC.
Libéraliser. Alors moi, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis libéraliser le commerce international, bien sûr, et j'ai mis protéger les investissements des multinationales. Donc c'est bien PSC, oui, j'avais plus le numéro en tête. Bon, en effet. Alors, ceci est écrit dans le mandat que vous pourrez trouver là si vous voulez. Le mandat de négociation, c'est le seul document officiel que l'on ait. C'est-à-dire que voilà le mandat, il y a 40 quelques articles, qui ont été donnés aux négociateurs de la Commission européenne, sur la base duquel ils négocient. On ne sait pas s'ils négocient, mais on sait sur quelle base. Parce qu'on a volé le. Parce qu'en fait, ça n'a pas été publié, sauf très tardivement. Mais comme il y avait eu tellement de fuites que finalement la Commission s'est décidée à le publier officiellement. Alors, je vous lis une petite phrase de l'article 6. L'objectif de la négociation est de stimuler la croissance et de créer des emplois. Ça, on peut dire que c'est plutôt bien. Même si la croissance n'est pas toujours parfaite et toujours durable, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, sinon on en sortira. Alors, du coup, bien sûr, la Commission s'est dit on va essayer de mesurer quel est l'impact de ce futur traité sur la croissance. Ils ont travaillé sérieusement. Alors, le résultat, c'est qu'on va réussir à avoir 0,5% de croissance supplémentaire en Europe sur 10 ans. 0,05% de croissance supplémentaire. Alors, à titre de comparaison, pour commencer seulement à stabiliser le chômage en France, il faut 1,5% de croissance. Tant que vous n'en êtes pas là, on a beau raconter tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à inverser la courbe de chômage. 1,5, c'est le minimum. À partir de 1,5, vous pouvez commencer à diminuer le taux de chômage. Donc, je ne vous dis pas l'impact sur l'emploi, qui sera évidemment très, très faible. Bon, pour vous donner une idée, ce plus 0,05% sur la croissance, enfin le supplément, c'est exactement ce qu'a donné le lancement de l'iPhone numéro 5. Voilà. Donc, ce traité énorme qui va être supporté par 800 millions de personnes, en fait, c'est l'iPhone 5. Voilà, donc c'est une pichenette, bien évidemment. Alors, pour essayer de mesurer l'impact sur l'emploi, on a essayé, nous, de regarder ce que ça a donné du côté de l'ALENA. L'ALENA, c'est un accord presque identique à ce que l'on va faire là, entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. qui a été signé en 92, mis en application en 94. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, en 12 ans, de 94 à donc 2000, je ne sais pas combien, on a mesuré, non pas une augmentation des emplois, mais une destruction de 1 million d'emplois aux États-Unis. Surtout sur toute la frontière sud, bien évidemment, parce que les activités sont parties de l'autre côté de la frontière. Au Mexique, ça a supprimé 5 millions d'emplois. Et là, essentiellement dans l'agriculture. L'agriculture mexicaine a été au bord de la faillite parce qu'elle était incapable de concurrencer, bien sûr, la grande agriculture états-unienne. Donc, c'est 5 millions d'emplois qui ont disparu dans les 12 ans qui ont suivi la signature de l'ALENA. Alors, j'en reviens à la question. Alors, comment va-t-on libéraliser ce commerce? Alors, pour libéraliser le commerce, la première chose que l'on fait, c'est de supprimer les droits de douane. Voilà. Ça, c'est la première chose que l'on fait. C'est ce qu'il y a de plus simple, peut-être de plus efficace. Mais les droits de douane, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il y a, j'ai noté les chiffres là, parce que je ne me souviens plus bien, on est en moyenne entre 2 et 4 % de droits de douane. Donc, rien. Alors, sauf dans l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, c'est 13 % de droits de douane. Pour l'Europe, lorsque les produits états-uniens viennent en Europe, c'est 13%, et lorsqu'ils vont de l'autre côté, c'est 7%. Donc là, il y a encore quand même une certaine protection. Donc si on fait disparaître les droits de douane, y compris pour l'agriculture, là, ça va être assez catastrophique pour les agriculteurs. D'autant que certains secteurs sont extrêmement protégés, parce que certains droits de douane en agriculture vont jusqu'à 40%. Je pense en particulier à une partie de la viande, les taux des droits de douane sont de 40%. Donc si vous les supprimez, cela veut dire que les agriculteurs alpins vont se retrouver en concurrence directe avec les grandes surfaces d'exploitation américaines. Là, ils vont avoir un peu de mal, à mon avis. Des questions sur cette deuxième question? Ou des remarques? Alors, l'espace Schengen, je résume, ça n'a rien à voir. Parce que l'espace Schengen, c'est simplement un espace qui ne correspond pas exactement à l'Europe. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a des pays de l'Europe qui ne sont pas dans l'espace, des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen, et quelques pays hors de UE qui sont dans l'espace Schengen. Bon, ce qui fait qu'on est quand même à peu près une vingtaine. Ça, c'est simplement un problème de relations humaines. C'est-à-dire que dans cet espace, tous les pays qui sont dans cet espace, tous les habitants des pays qui sont dans cet espace ont le droit de circuler absolument librement dans cet espace. Voilà. Par exemple, un immigré qui rentre dans l'espace Schengen, il peut circuler dans tout cet espace. C'est d'ailleurs un des problèmes que pose l'immigration d'Israël. Donc, si vous voulez, c'est une surface, c'est un territoire dans lequel vous avez le droit de circuler absolument librement avec votre carte d'identité, sans plus, et votre carte de santé européenne, ça je vous le conseille. Mais vous pouvez circuler absolument librement comme vous partez de la région PACA vers la région Auvergne. Il n'y a pas. C'est une région administrative. Mais ça n'a rien à voir avec les relations commerciales. Même si en plus il y a des relations commerciales établies, bien sûr, entre ces pays européens. D'autres questions ou de remarques? Alors, on en est à la troisième question. La troisième question. Le TAFTA permettra.
On n'a pas parlé du point C, la réponse C,
de
protéger
les investissements. Ah oui, je vais revenir. Bien sûr, l'objectif principal, c'est là, mais je vais revenir tout à l'heure dans les autres questions. Bon, si jamais j'oublie quelque chose à la fin, n'oubliez pas de me rappeler à l'ordre. Mais théoriquement, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas oublier. Alors, le TAFTA permettra A, de protéger les travailleurs par de nouvelles normes sociales, établir de nouvelles normes sanitaire, augmenter les bénéfices des entreprises. Bon, qu'est-ce que vous faites là encore?
Baisser.
Mieux, vous devenez excellent. Bon, protéger. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Protéger les travailleurs par des nouvelles normes sociales, bien évidemment, ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas maximiser le profit des entreprises et puis protéger les salariés. Parce que la protection des salariés a un coût. Donc, dès qu'il y a un coût supplémentaire, les bénéfices sont minimisés. Donc comme l'objectif c'est de maximiser les profits, on ne peut pas en même temps protéger les travailleurs, et en tout cas c'est pas ce qui est prévu dans ce traité. Alors après, est-ce que les normes sociales vont au contraire être nivelées par le bas? Pour une partie, c'est possible. Voilà. Alors là, ça, c'est l'un des grands dangers de l'ensemble des travailleurs européens. Parce qu'on peut en effet essayer d'harmoniser le droit du travail, de détricoter le droit du travail, pour travailler par exemple tous les dimanches, au hasard. Alors ça, si vous voulez, ce problème des normes sociales, ça rentre aussi dans le cadre de la compétitivité. Il faut absolument être compétitif, ça vous le savez, on l'a entendu sur toutes les radios et toutes les télévisions. Soyons compétitifs. Alors comprenez bien ce que ça veut dire. Être compétitif, et y arriver le plus simplement, c'est tout simplement de baisser les salaires. Parce qu'être compétitif, c'est être capable de vendre le moins cher possible. Vendre le moins cher possible, comme dans une entreprise, le coût essentiel... Ce qui est logique, c'est le travail, puisque c'est le travail qui fait la richesse. Eh bien, en baissant le coût du travail, vous pouvez baisser très rapidement vos prix de revient et donc vendre moins cher. Et donc, alors il y a une autre solution, c'est d'être plus productif. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut investir, robotiser par exemple. Ça, c'est une bonne façon de le faire, avec le problème du risque sur l'emploi. Et une autre solution pour être compétitif, c'est de faire baisser la valeur de votre monnaie. Alors jusque-là, on n'avait pas compris en Europe. On ne savait pas. Et puis maintenant, ça y est, on l'a compris. Depuis quelques jours, on sait que la monnaie baissant, on devient plus compétitif, puisqu'on est passé de 1,25 il y a quelques semaines à 1,13 hier ou avant-hier. Donc l'euro est en train de baisser. Et mécaniquement, lorsque l'euro baisse de 10%, ça baisse vos prix internationaux de 10%. Donc ça, c'est formidable. Ça ne coûte rien. Bon, jusque-là, on avait un euro qui était surestimé par rapport au dollar. Bon, aujourd'hui, on est à peu près à la valeur réelle entre euro-dollar, qui est estimé autour de 1,10-1,15. Donc on est arrivé enfin à la bonne parité pour être à peu près compétitif.
J'avais une remarque à faire. Vous avez suggéré trois voies possibles. Au niveau de la compétitivité. Il y a une autre voie, et qui s'est illustrée récemment, quand on a édité le bilan de LVMH, qui a fait 6 milliards d'euros de bénéfices supplémentaires, en se basant uniquement sur la valeur ajoutée. Valeur ajoutée de la production créative. Voilà. Donc, quand on parle de compétitivité, les produits LVMH ne sont pas rapides, ils sont vendus très cher. Ils sont produits par des artisans qui gagnent très correctement leur vie. Je pense que c'est peut-être une autre voie aussi. Et pas seulement basée sur la réduction des salaires, et basée sur l'inflation ou sur la différence de change. Je pense qu'il y a une possibilité de construire des produits de qualité avec des fortes valeurs ajoutées et de vendre ça pour permettre à tout le monde de gagner sa vie.
Tout à fait. Parce que, alors, quand j'ai parlé de compétitivité, j'ai sous-entendu, et je n'aurais pas dû le faire, compétitivité prix. D'accord ? Parce qu'en fait, quand on nous bassine avec la compétitivité, quand on l'utilise simplement comme ça, en fait, on sous-entend compétitivité prix. Et pour la compétitivité prix, c'est bien ce que je disais. Alors, en effet, il y a une autre compétitivité qui est la compétitivité qualité. C'est-à-dire là, au lieu de jouer sur le prix, vous allez jouer sur la qualité. Les Allemands, par exemple, sur les voitures, vont jouer sur la qualité. Ou bien LVMH va jouer sur le luxe. Et là, il n'y a plus de prix, si vous voulez. Puisque les gens n'achètent, ne vont pas acheter en fonction d'un prix. Ils vont acheter en fonction d'une qualité. Alors, bon. Oui. Mais ça, si vous voulez, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire.
Les Américains l'ont fait avec Apple ou l'iPhone.
Oui. Alors, avec... Non, mais vous pouvez me trouver des milliers de produits possibles, d'accord. Mais pas tous. Sur une chaise, je peux vous garantir que là, vous ne pourrez pas jouer sur la qualité. Sauf si vous voulez faire des chaises haut de gamme, d'accord. Mais ce n'est pas le même produit. Si vous voulez vendre des chaises aujourd'hui en France aux collectivités, il faut que le prix soit là.
Comme vous parlez de dérégulation, justement, le problème posé, c'est que vous mettez en concurrence des pays, des industries, des multinationales. Si les gens ne fabriquent pas tous le même produit ou ne fournissent pas tous la même prestation de service, qu'il y ait une régulation à ce niveau-là, Là, il peut y avoir un véritable échange avec des valeurs ajoutées. Il n'y aura pas de baisse de salaire, il n'y aura pas de compétitivité démesurée.
Ah, bien sûr, s'il y a une seule entreprise qui vend un produit dans le monde, bien sûr, mais là, il n'y a plus de concurrence. D'accord ? On est dans un autre système, mais que l'on peut imaginer. Mais si vous voulez, moi, je vous parle du système actuel où les entreprises sont en concurrence entre elles, y compris les entreprises françaises avec des entreprises chinoises. Ça, là, c'est une réalité. Bien sûr, si on faisait autrement, il y a d'autres solutions. Mais la solution que tu proposes, c'est une planification. D'accord ? Parce que si on veut qu'une seule entreprise, ce qui serait le mieux sur le plan de l'efficacité, une seule entreprise produit des chaises, par exemple, je reprends mes chaises, et elle les vend au monde entier, vous allez avoir des chaises qui vont être 5 fois, 10 fois moins chères que celles que vous avez aujourd'hui. D'accord ? Mais si vous laissez une seule entreprise, vous ne pouvez pas laisser au privé. Parce que s'il est seul à produire, il va en profiter, au sens fort du terme. Donc ça veut dire, ce qu'on peut imaginer, là, une planification des chaises à l'échelle mondiale. Bon. Le problème, c'est que la planification parfaite, telle qu'on l'a imaginée en Union soviétique il y a quelques années, où la concurrence pure et parfaite, comme l'imaginent les ultralibéraux, aboutissent au même résultat. D'ailleurs, un économiste néoclassique qui est au point de départ de notre système, Pareto, disait à ses copains libéraux, qui lui en voulaient d'ailleurs, mais pour aboutir à ce que vous voulez avec votre concurrence pure et parfaite, faites plutôt une planification pure et parfaite. On aboutit au même résultat. Mais entre les deux, il y a des hommes. Il y a des hommes qui ne sont pas parfaits et qui ont leur mot à dire, et que ce soit dans le système de concurrence ou dans le système de planification, leur comportement n'est pas forcément celui qu'on attend. Et à partir de là, on ne peut pas réfléchir en termes de perfection. En tout cas, à chaque fois qu'on essaye, ça échoue. Fatalement. Donc, on peut essayer d'imaginer sur le papier, et on a tout imaginé, hein. Mais dans la réalité, il y a des hommes et des femmes qui sont dans une histoire, dans une situation, et ça devient rapidement beaucoup plus compliqué. Donc, réfléchir en termes de compétitivité sur une seule entreprise qui produit à la surface du globe, là, il faut rentrer dans la planification. Donc, il faut changer le système. On peut essayer, hein, mais il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, pour finir avec ce problème de compétitivité, bien évidemment, la compétitivité prix qu'on nous ressasse en permanence, c'est un argument, une justification des profits. Il ne faut pas être naïf non plus. On nous dit qu'il faut être compétitif pour vendre à l'extérieur, et donc il faut baisser les salaires, mais bien évidemment, c'est une entourloupe. Je prends le cas de la France. La France exporte chaque année à peu près pour 430 milliards d'euros. Donc presque le quart de notre PIB. On exporte. On n'est pas compétitif, nous dit-on. On exporte 430-440 milliards l'année dernière. Bon, par contre, on importe plus. 50 milliards de plus que les exportations. Donc on est en déficit. Ça, c'est un peu embêtant. C'est pas catastrophique, parce que maintenant qu'on est dans l'euro, c'est pas nous qui payons. Bon, c'est pas grave. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il vaut mieux équilibrer. Mais on nous ressasse la compétitivité pour 50 milliards d'euros, ce qui est une paille, finalement, à l'échelle de notre PIB. Et bien qu'on ne soit pas compétitif, on exporte quand même 430 milliards d'euros chaque année. Donc ça veut dire qu'on l'est quand même un peu, ou qu'en tout cas, la compétitivité n'est pas un objectif unique à poursuivre. Bien, je passe à la troisième. Je vois que je commence à devenir la quatrième.
Juste une petite remarque par rapport à votre propos. Lorsque, effectivement, vous présentez les choses comme vous les présentez en disant que le déficit commercial français est 50 milliards d'euros, c'est vrai, pas, je suis d'accord avec vous. On cherche finalement à culpabiliser les travailleurs français et la population française en disant finalement vous n'êtes pas assez compétitif, il faudrait être davantage compétitif. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la seule façon d'être davantage compétitif dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est de baisser les salaires. Donc d'écraser finalement le mouvement social. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, excusez-moi, je reprends un petit peu le départ de votre propos sur la genèse de ce TAF-là. C'est que. L'Europe, aujourd'hui, est incapable de réaliser l'harmonisation fiscale dont on a absolument besoin. C'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, il y a déjà une concurrence organisée entre les entreprises avec des taux d'imposition des sociétés complètement différents d'un pays à l'autre. Vous savez, la France a un taux d'imposition des sociétés de 30-20 tiers pour certaines catégories de bénéfices, et puis on va aller derrière là, on a 5 voire 0%. Ce qui organise déjà au sein de l'Europe à la fois la concurrence entre les entreprises, la fraude, dont parlait Daniel Berthet il y a quelques instants, je peux permettre de citer d'ailleurs.
Si.
La fraude fiscale, bien évidemment, mais également la concurrence entre les travailleurs. Et on est déjà infichu de réaliser l'harmonisation dont on a absolument besoin pour faire bloc vis-à-vis de continents que sont les États-Unis, par exemple, l'Inde et la Chine, demain ou aujourd'hui. Et on est en train de défaire davantage, finalement, ce qu'on a commencé à bâtir depuis 30 ans en Europe, en ouvrant davantage le marché. Sous la pression de qui? Parce qu'il faut le dire. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est les immenses lobbies qui accumulent des dizaines et des centaines de milliards d'euros, qui sont capables d'acheter qui? Ceux qui décident aujourd'hui au niveau européen, c'est-à-dire les gouvernements et les parlementaires.
Vous comprenez? Comme je suis d'accord, je ne réagis pas.
On est dans un système aujourd'hui qui cherche à abattre. Et on a l'exemple avec le SAFTA, l'ensemble des barrières fiscales, sociales, qui protègent encore les populations. Voilà la réalité. Et voilà la réalité des gouvernements européens qui gouvernent aujourd'hui l'Europe. Hein, ils ont mis par terre la Grèce. Ils ont mis par terre la population grecque comme ils l'ont fait depuis 5 ans. Ils en ont passé. Après la Grèce, ce sera peut-être d'autres pays. Hein, au service de qui? Au service de ceux qui ont le pouvoir dans le monde aujourd'hui, c'est la réalité absolue.
Je ne vais pas en rajouter puisque je suis d'accord à 95%. Mais on reviendra sur cette question en effet, parce que c'est en effet l'objectif final est là. L'objectif final, c'est de maximiser les profits à tout prix. Et donc, à ce moment-là, en effet, on a plus de social, on a plus d'environnement.
On a plus d'ambition,
on a plus de sanitaire.
On a plus d'ambition, plus de cohérence.
Alors, je pense que. Oui.
À propos de concurrence aussi, je vais citer. Même dans un système de concurrence parfait, on est dans un jeu qui est poussé, parce que c'est le temps de faire des outils, mais à pratiquer des ententes illicites entre 3 ou 4 sociétés sous la fixation d'un prix et sous.
On n'est pas plus fort que le plus en forêt, c'est pas la peine.
Tu n'as pas lu.
Non,
mais je vais répéter ce que tu dis. En effet, bon, la question que pose notre collègue, c'est qu'en fait, la concurrence parfaite n'existe pas, y compris entre les entreprises, puisque les entreprises s'entendent entre elles. Mais elles n'ont même pas besoin de s'entendre entre elles, puisqu'une multinationale, les grandes multinationales, déjà, ont un poids tel qu'elles ne sont plus en concurrence avec les autres entreprises. Donc, en effet, les libéraux eux-mêmes, qui protègent les multinationales, ne sont pas cohérents. C'est-à-dire que, si on voulait être cohérent, il faudrait que les multinationales disparaissent parce qu'elles sont trop puissantes et donc on ne peut plus les concurrencer. Et à partir de là, en effet, la concurrence pure et parfaite que prônent les libéraux n'est même pas respectée par ceux qui la défendent. Donc en effet, on aboutit forcément à l'exploitation de l'homme par l'homme, il faut dire les mots comme ça. Bon, je vous propose d'avancer un petit peu et puis je vais répondre rapidement à toutes les questions pour qu'on soit débarrassé de notre. Et puis on reprend le débat autant que vous voulez. Donc, si le TAFTA est ratifié, les multinationales pourront attaquer un État. Premièrement, qui fait voter un budget en déficit. Petit B qui décide d'une augmentation du SMIC. Petit C qui est dirigé par un vrai socialiste. Ne pas prendre au premier degré. Hein. Vous avez voté pour
B.
Bien sûr. Et là, c'est une réalité. Alors, pourquoi? Qui décide d'une augmentation du SMIC? Parce qu'en effet, un État qui décide d'augmenter le SMIC, il va faire baisser le profit des entreprises, fatalement. Et c'est une réalité puisque l'Égypte a été attaquée par une entreprise, Veolia, pour ne pas la citer, parce que l'Égypte, il y a quelques mois, a augmenté le SMIC de 41 euros à 72 euros, vous voyez un peu le taux SMIC, par mois, et en plus elle a indexé les salaires sur l'inflation. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui risque de minimiser les profits des entreprises, et donc Veolia a attaqué l'Égypte pour. Alors, je ne sais pas si elle aura gagné d'autres, mais en tout cas, c'est un fait.
Mais elle l'a fumée auprès de qui?
Alors. Ah, ben, c'est un tribunal privé. Parce que. Donc, tout, si vous voulez, tout, là, il y a un accord particulier entre l'Égypte et la France, parce que là, je vous parle des grands accords, mais il y a de nombreux accords bilatéraux de pays à pays où on prévoit déjà ce type de tribunal privé. Et donc, c'est un tribunal privé qui est toujours composé de 3 avocats d'affaires. Et je regardais les statistiques, je crois que c'est pour le Canada, qui a été attaqué 40 fois dans les mois qui ont précédé, il a perdu 40 fois. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc on va mener. Mais on va reparler de ces tribunaux privés longtemps.
Donc tu donnes la réponse.
Comment ?
Je dis que tu as donné la réponse.
Quel
droit on applique aux tribunaux privés ?
Ah, de quel droit ? Parce que.
C'est un droit mondial ?
Non, parce que les hommes politiques le décident. Quand vous signez un traité international, une fois qu'un pays a signé un traité avec un partenaire, théoriquement, on respecte les contrats qu'on a signés. Et comme dans ce contrat, il est prévu que les litiges soient jugés par un tribunal privé, on applique le contrat. Et évidemment, il ne faut pas signer ce type de contrat. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles on est contre ce DAFTA. Parce que je vais revenir dans la question 8 et 9, c'est le plus grand des dangers qui existe. C'est ce tribunal privé. Non, il n'est pas touché officiellement, puisque ce sont nos hommes politiques qui décident et nous les avons soi-disant élus. Parce que là, dans notre cas, si ça se passe comme c'est prévu, c'est le Parlement européen qui l'a décidé. Qui a élu le Parlement européen ? C'est nous. Donc il n'y a pas vraiment un déni de démocratie sur le papier. Bon, c'est dans la réalité, évidemment, on comprend bien que c'est un déni de démocratie. Mais si vous voulez, il respecte la souveraineté est officiellement respectée. Même si dans les faits, c'est faux. Alors, cinquièmement, les négociations, on va continuer sur cette question, les négociations ont débuté le 8 juillet 2013, sont tenues au courant le Parlement européen, les citoyens, la Commission européenne, les multinationales. Vous répondez ? Ça y est, vous avez pris le rythme. Alors, le Parlement européen, lui, il a accepté le principe des négociations, et puis depuis, rien. C'est pas compliqué. Il sera consulté à la fin. Il aura le droit de voter pour ou contre, sans amendement. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le droit de modifier. Soit il accepte complètement, et ça vous oblige un peu à voter, vous voyez. Ça incite les gens à voter oui, quoi. Parce que sinon, vous refusez tout. Donc, et on ne sait pas, ce qui est quand même assez probable, si les parlements nationaux seront consultés. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais on se dirige vers une consultation parce que ça commence à faire du bruit et que les parlements nationaux vont certainement bouger suffisamment. Bon, les citoyens, j'en parle pas. On est bien. Alors, la Commission européenne, bien sûr, est informée puisque c'est elle qui négocie directement. La Commission européenne, je vous le rappelle, n'est pas élue. D'accord ? Donc, la négociation se fait entre experts, soi-disant. Et bien sûr, les multinationales. Alors, pour vous donner un exemple, je fais la question simple. Actuellement, les négociateur américain est entouré de 580 conseillers. Attendez, non, c'est pas 580. De 566 conseillers, parce que ça ne me donnait pas de chiffre. 566 conseillers. Sur ces 566, il y en a 480 qui représentent les multinationales. 480. Il y en a 47 qui représentent syndicats et ONG. Bon, là, mais c'est vite. On n'a pas la peine de discuter de... Question 6. Le TAFTA permettra de vendre plus facilement des produits OGM, des Kinder, des poulets à la Javel. Ah, vous choisissez quoi ? Mais par contre, permettra de vendre plus facilement... Voilà, d'accord. En effet, A et C, puisque les Kinder sont interdits aux États-Unis. Il y a eu quelques accidents de bébés maladroits qui ont avalé des petits trucs dans les Kinder, donc du coup ils sont interdits dans de nombreux états, peut-être tout, je ne sais pas exactement.
Mais les Kinder, du coup, ils pourront porter plainte
contre les États-Unis. Bien sûr. Alors après, voilà, comment on va harmoniser ? Est-ce qu'on vend des Kinder partout, y compris aux États-Unis, ou est-ce qu'on en vend nulle part ? Même chose pour les OGM. On peut harmoniser, soit on dit tout le monde en vend, soit personne n'en vend. Soit on a le droit de désinfecter les poulets à la Javel, partout, soit on n'a pas le droit. Alors pourquoi les poulets à la Javel au passage ? C'est parce que les Américains sont très sensibles à l'hygiène en fait. et que la javel, c'est excellent. Ça, vous l'avez remarqué, ça tue toutes les bactéries. Bon, voilà, donc ils sont pour la javel, pas de problème.
La seule hygiène valable, c'est l'hygiène mentale. Il n'y a pas de possibilité.
Donc, oui. Alors, par cette question qu'on touche le fond des négociations, comment va-t-on harmoniser ? Par le haut, par le bas, qui va avoir gain de cause ? Est-ce que c'est les États-Unis ou l'Europe ? Ou est-ce que tout simplement les multinationales ? Parce que les multinationales, elles ont le même intérêt partout. D'accord ? Et comme elles sont dans les négociations superpuissantes, on peut imaginer que ça va tomber plutôt vers elles, quand même. Donc, parce qu'en fait, c'est pas... C'est vrai que je dis conflit, débat entre États-Unis et Europe. Non. Parce qu'aux États-Unis, il y a aussi des réactions de la part des consommateurs. Hein. En fait, le conflit, il est entre les grandes entreprises et les consommateurs et les travailleurs. C'est là qu'est le conflit. C'est pas entre les deux États. Et là, le risque, c'est que c'est nous, la base, qui perdions parce que le pouvoir est donné par l'argent dans notre système. Et donc, on peut, comme tu l'as fait remarquer, on peut acheter un peu tout et n'importe qui, malheureusement. La surface moyenne, question 7, des exploitations agricoles est de 200 hectares aux États-Unis, 80 hectares en Europe, 120 aux États-Unis, 90 en Europe, 170 aux États-Unis, 13 en Europe. Vous choisissez quoi ?
A.
A. C'est un bon début, mais c'est le petit C. C'est le petit C. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de petites exploitations, genre exploitation maraîchère, qui font baisser la moyenne en Europe. La concurrence va être terrible parce qu'en effet, là, on est sur des moyennes. Mais vous avez en effet des entreprises, des exploitations américaines qui couvrent des dizaines de milliers d'hectares. Et avec des dizaines de milliers de vaches, bien sûr, poussées aux hormones de croissance, et là, vous augmentez votre production laitière de 10 à 15%. Donc, ça veut dire, bien sûr, c'est du hors-sol. Ça veut dire que votre lait est très compétitif. Mais la concurrence sera là, en fait, très sévère. Alors, j'en arrive à la question 8 et 9, qui sont les deux questions fondamentales. En cas de conflit entre un État et une multinationale, bon, vous avez la réponse, hein, puisque j'ai déjà donné. Le jugement sera rendu par un tribunal composé de juges professionnels ou d'avocats d'affaires. Petit B, un tribunal privé composé d'avocats d'affaires. C, un tribunal composé de 4 juges américains et de juges européens. Bon, c'est le petit B qui l'a emporté, bien évidemment, puisque je vous avais déjà donné la réponse. Et ça, c'est assez catastrophique. Donc, et qui se complète avec la question 9, et j'y passe, pour répondre aux deux questions en même temps. Alors, vrai... Non, c'est une réponse, ça, pardon. Alors, le traité prévoira-t-il le maintien des services publics de l'enseignement et de la santé, la mise en place de nouveaux droits de douane aux frontières de l'UE et des États-Unis, l'interdiction pour les communes de favoriser les produits locaux, les producteurs locaux, l'obligation pour les hommes politiques de tenir leur convention. On peut supprimer le petit dé, c'est une erreur de la machine à écrire, ce qui a été, je ne sais pas, ce qui lui a pris. Bon, vous choisissez quoi ? Le petit C, bien sûr, puisque si vous favorisez les producteurs locaux pour votre cantine, par exemple, vous ne respectez plus la concurrence. Et donc, ne respectant plus la concurrence, vous empêchez les multinationales de faire du profit.
Excusez-moi,
oui.
Les contrats d'approvisionnement que passent les producteurs et les industriels seraient attaqués par ce
tapin. Ah, il faudra passer des marchés. C'est-à-dire les... Je parle des communes. Là, je ne parle pas des entreprises. Les entreprises, elles, restent libres de signer tous les contrats qu'elles veulent. D'accord ? Je dirais presque malheureusement. Parce que ça veut dire que les multinationales, qui représentent souvent 100, 200 entreprises, en fait, bon, 100 sociétés qui sont dispersées dans tout le monde, dans le monde entier, ces entreprises-là pourront toujours continuer à commercer entre elles. C'est-à-dire à l'intérieur de la multinationale, vous aurez le droit de faire des contrats. Or, la plupart de ces contrats permettent justement de faire circuler les bénéfices d'un pays à l'autre. Quand une entreprise, une société de, je veux dire, je sais pas, une entreprise quelconque qui produit par exemple des automobiles dans le monde, qui est basée en Chine, puis en France, aux États-Unis, ces entreprises, ces trois entreprises vont faire des contrats entre elles. Et elles vont, par exemple, facturer l'entreprise française va facturer à une autre entreprise de la même multinationale dans le pays où les impôts sont plus bas. Vous comprenez ? On va facturer un prix élevé là où les impôts sont plus bas, pour payer moins d'impôts, et inversement. Donc ça, ça sera toujours autorisé. Là, ce à quoi je faisais allusion, c'est pour les collectivités. Les collectivités, vous savez, au-dessus d'un certain coût, je ne sais plus quel est le seuil, elles sont obligées de passer des marchés. Et donc, elles ne pourront plus, donc, elles passent un marché qui est ouvert, y compris aux multinationales, et elles devront tenir compte, bien sûr, de toutes les réponses, et elles n'auront pas le droit d'avoir une préférence locale, en disant, voilà, celle-ci est légèrement plus chère que l'entreprise multinationale, mais je la prends quand même parce que c'est une production locale. Ça deviendra absolument interdit. C'est-à-dire que les communes ne pourront plus choisir. Et si elles le font, elles seront attaquables. Elles seront attaquables devant le tribunal privé. C'est-à-dire que j'ai dit tout jusque-là, en parlant du tribunal privé, les multinationales pourront attaquer les États, mais elles pourront attaquer les régions, les départements et les communes. D'accord ? C'est pas... Donc là, on sera vraiment tous concernés directement.
Mais est-ce qu'il n'y aura pas un impact aussi sur les subventions accordées par les régions ? Parce qu'il y a des régions qui subventionnent, y compris des multinationales, pour s'installer, pour créer de l'emploi. Donc ça vous sera interdit.
Ah ben, non, ça ne sera pas tout à fait interdit, mais il faudra l'offrir à toutes les entreprises d'un territoire donné, même si elles sont étrangères. Le problème, c'est que vous pourrez éventuellement continuer à subventionner, mais il faudrait une égalité de traitement. Et là, évidemment, ça va devenir impossible.
Oui, le point le plus important, dont vous n'avez pas parlé, c'est le petit A, le maintien des services publics, même s'ils n'ont pas toujours besoin de presse, en vertu de la loi de la simple concurrence, il ne peut pas y avoir, par exemple, un service public de l'enseignement. C'est une entrave à la libre concurrence. Donc, les États pourront être poursuivis s'ils ne suppriment pas les services publics de l'enseignement. C'est déjà un premier point quand même assez monumental. Ensuite, le deuxième, et je me rappelle d'un chiffre que j'ai entendu dernièrement sur la santé, c'est qu'en France, on dépense pour le coût de la santé, paraît-il, 11,7% du fameux PNB. Aux États-Unis, c'est 18%. Alors quand on... Bon, en France, donc un système à peu près socialisé de la santé, aux États-Unis, privé. Or, donc, ne serait-ce que d'un point de vue économique, le système américain, il est vraiment très mauvais, hein, puisqu'en gros, il coûte 50% de plus que le système français, et en plus, quand on regarde l'espérance de vie des Américains, elle est nettement en dessous de l'espérance de vie du français. Donc, et en plus, beaucoup de gens ne sont pas couverts aux États-Unis. Donc, ce système américain qui est vraiment dégueulasse, eh ben, si ce truc-là est mis en application, il ne faut pas essayer de nous l'imposer.
Absolument. Voilà, par contre, c'est bon. Disons que non, les États ne sont pas obligés de démanteler le service public. Par contre, elles ne pourront pas refuser la concurrence. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas empêcher une entreprise quelconque de mettre en place un service de l'enseignement. On ne pourra pas s'opposer à sa mise en place. Par contre, on pourra garder quand même notre service public. Ça, c'est bien prévu par les textes. Mais pour la santé, ça sera la même chose. On ne pourra pas, on ne sera pas obligé de démanteler le service public, mais on ne pourra pas s'opposer à la mise en place de cliniques privées, qui, elles, bien sûr, prendront seulement les actes les plus bénéficiaires, bien évidemment. Et l'hôpital public, lui, gardera tout ce qui est déficitaire. Ça, c'est assez probable. Alors, c'est déjà ça. Oui, mais là, si vous voulez, ça veut dire que les entreprises multinationales, américaines en particulier, qui sont déjà très développées dans le domaine de la santé et de l'enseignement, pourront venir nous concurrencer sur notre territoire. Alors, pourquoi est-ce que, en fait, ces multinationales y tiennent? Et elles y tiennent beaucoup à cette petite partie. Parce que aujourd'hui, 70% du commerce international, c'est du commerce de services. On échange proportionnellement de moins en moins de biens. On échange surtout des services. Et donc, les profits supplémentaires qu'on peut faire, c'est dans les services qu'on les fera. Et donc, les entreprises multinationales, évidemment, veulent s'investir dans les services publics, qui sont aujourd'hui publics. Et là, il est fort probable que les États ne pourront pas résister à cette concurrence. Parce que les États veulent équilibrer leur budget, veulent dépenser de moins en moins, faire de moins en moins de dépenses. Et donc, si vous voulez, elle ne peut pas répondre à cette concurrence. Et en effet, le risque, c'est qu'une bonne partie des services d'enseignement et des services de santé deviennent privés. Et là, en effet, si ça ressemble au système américain, ça va devenir catastrophique, en termes d'espérance de vie en particulier.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de réglementation publique du tout par un État ? Par exemple, je prends l'exemple du gaz de schiste. En France, on interdit actuellement toute recherche du gaz de schiste. Est-ce qu'après le TAFTA, des entreprises américaines pourront venir dire on va maintenant exploiter le gaz de schiste en France ?
Ah, bien sûr. Si, là encore, alors on va prendre la fracturation hydraulique. Soit, il faut qu'on se mette d'accord. La règle, c'est qu'on respecte tous les mêmes règles. Bon. Soit on accepte la fracturation et elle se fera partout, soit on n'accepte pas et on la fera nulle part. Bon, vous imaginez que les Américains ne vont pas renoncer à la fracturation hydraulique puisque ça leur a permis d'augmenter leur production pétrolière d'une façon gigantesque ces derniers temps. Bon. Donc que va-t-il se passer ? C'est qu'on va nous l'imposer fatalement. Bon. Un État pourra dire, malgré tout, non, je refuse la fracturation hydraulique. Mais dans ce cas-là, l'entreprise multinationale pourra attaquer l'État en question et il paiera. C'est le cas aujourd'hui pour le Canada. Dans le cas de l'ANENA, le Québec a interdit la fracturation hydraulique et le Canada est attaqué par une entreprise dont j'ai oublié le nom. C'est Lone Pine qui réclame 250 millions de dollars au Québec parce que elle a interdit donc la recherche de gaz de schiste par cette méthode-là. Mais il y a pire, j'ai noté ce matin là, une entreprise pétrolière qui s'appelle Gasten, elle est très peu connue, elle réclame 1 million de dollars à la commune canadienne de Ristigouche. C'est une petite commune de 168 habitants. 168 habitants. 1 million de dollars. Et pourquoi ? Parce que le conseil municipal de cette petite commune a décidé d'interdire la recherche de gaz de schiste dans un rayon de 2 km autour de ces sources d'eau potable. Ce qui semble assez logique, vous êtes bien d'accord avec moi. Et donc, la firme a attaqué, je ne sais pas si elle aura gagné cause, mais elle réclame 1 million de dollars. Bien sûr que la commune ne pourra jamais payer, hein, de toute façon. Autre exemple, puisqu'on est sur les arbitrages, la Vattenfall réclame, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 milliards d'euros à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Et donc ça va faire baisser, bien sûr, les profits de Vattenfall. Et on en a comme ça des cas et des tas.
Comment ? Il y a plus de propriété, parce qu'en France, le sous-sol appartient à l'État. Oui. Donc le propriétaire est quand même encore libre de ne pas vendre son sous-sol pour faire les recherches.
Alors, il ne le vend pas, on donne des concessions.
Oui, mais il est encore libre de ne pas donner des concessions.
Eh bien non. Par le TAFTA, non, il ne pourra pas refuser la demande de concession. Il faudra qu'il réponde à des marchés, c'est-à-dire qu'il faudra choisir parmi les concessionnaires, mais il ne pourra pas ne pas répondre. Il ne pourra pas interdire. Et s'il interdit, il paye. C'est la règle qui sera si le TAFTA est signé en l'état.
Donc une souveraineté nationale.
Vous avez dit l'objectif du TAFTA, c'était d'enlever toutes les règles au commerce, toutes les entraves. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que des règles qui sont émises. Interdiction aux communes de favoriser les producteurs, c'est une règle. Interdire l'augmentation du SMIC, c'est une autre. Établir de nouvelles normes sanitaires, c'est des règles aussi. Donc finalement, c'est établir des règles quand même.
Non, pas tout à fait. C'est l'interdiction d'établir des règles. Ce qui est une règle. Mais là, c'est tout seul. Donc, on interdit de faire des règles. Voilà. Le droit devient simple. Il y a une seule règle qui est d'interdire les règles.
On interdit une certaine forme de concurrence.
On n'a qu'à sortir de droit, à ce moment-là.
Je crois que le mieux, c'est de ne pas signer l'accord. Voilà. La position, pour l'instant, c'est de faire échouer cet accord. On a quand même quelque chance de le faire échouer parce qu'il y a un point qui achoppe aujourd'hui, c'est le tribunal privé. L'Allemagne est contre, la France est contre et de nombreux pays européens sont contre. Et les États-Unis, eux, tiennent beaucoup, bien sûr, au tribunal privé et les multinationales, bien évidemment. Donc, soit on accepte le tribunal privé et puis le TAFTA va être signé, soit on le refuse et, à mon avis, il ne va pas être signé. Donc, on a une petite chance. Donc, c'est pour ça qu'il faut se battre. Et nous, ce qu'on espère, c'est ce qu'on appelle l'effet Dracula. C'est déjà arrivé avec l'accord multinational sur l'investissement. Lorsque cet accord a été public, les politiques l'ont retiré. Parce que ça a commencé à faire un tel bruit qu'ils ont eu peur d'aller jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle ils sont aujourd'hui aussi discrets. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas ce qu'il y a dans les négociations? Parce qu'ils ont peur que le public s'empare du débat. Et là, le risque est fort qu'il y ait une telle levée de bouclier qu'ils ne pourront pas le signer. Donc ils espèrent pouvoir protéger le secret jusqu'au dernier moment. Alors théoriquement, le dernier moment, c'est juin 2015. C'est ce qui a été annoncé officiellement. Mais ils viennent de fixer une réunion en juillet 2015. Donc déjà, on est sûr que ça ne sera pas fait pour juillet. Et puis, il y a tellement de désaccords pour l'instant, parce qu'il y a quelques fuites, que ça sera 2015, 2016, 2017, ou jamais. Donc si vous voulez, en effet, la sortie de l'Europe, c'est une solution. Mais il est plus simple de ne pas rentrer dans le TAFTA. Parce que le sortir de l'Europe, ça complique quand même sérieusement les choses. Et là, on entrerait dans un autre débat.
Il y a un précédent, c'est l'accord sur anti-contrefaçon ACTA de 2012, qui n'a finalement pas été signé. Donc,
même chose, tout à fait.
Ça. Il y a quand même un espoir.
Ben, il y a eu deux cas, l'AMI et l'ACTA.
Et c'est important de dire que la mobilisation citoyenne, elle n'est pas inutile, qu'elle est fondamentale.
C'est la raison pour laquelle on essaie de vous mobiliser.
Et on a entendu parler de la possibilité de grandes manifestations européennes et aux États-Unis en même temps. J'aimerais que vous en parliez un petit peu aussi.
Ben, il y en a déjà une le 11 octobre. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias, mais on a, nous, essayé de mobiliser. Il y a plusieurs pays européens qui ont mobilisé. Il y a eu quelques actions aux États-Unis. Mais si vous voulez, la mayonnaise a beaucoup de mal à prendre. Parce que pour l'instant, bien sûr, vous avez l'air plutôt d'accord avec moi. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je pars sur des suppositions. Je ne suis sûr de rien. Je n'ai rien pour vous dire tout ce que je vous dis. En fait, on compare avec ce qui s'est passé avec Alena, parce qu'on suppose que l'accord est du même type. Mais on n'a absolument rien, sinon ce mandat-là qui tient quelques pages. Hein, on a donné quelques consignes, mais on n'en sait pas plus. Alors si ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on a remarqué que dans ce petit mandat, on utilise parfois le futur simple, « devra » et de temps en temps « devrait ». Ça, alors si vous le lisez, faites-y très attention. J'ai noté une petite phrase au tout début, je ne sais plus, que j'avais remarqué, oui. Enfin, tout ce qui est plutôt mauvais pour nous, c'est le futur simple, devra, d'accord. Et quand c'est pas trop mauvais, c'est devrait. Et donc, quand vous lisez, faites bien attention, cette différence de conjugaison est extrêmement importante.
Moi, je sais pas, c'est une question bête et méchante. Quel est le rôle de l'OMC dans tout ça?
Alors, l'OMC n'est pas très contente. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce traité? Enfin, ce traité, on ne fait pas d'aujourd'hui. Hein. La première fois on y a pensé, c'est en 1990, un an après la chute du mur de Berlin. Et ce n'est pas le hasard, ça je vous le garantis. Depuis 1990, les multinationales nous tarabustent, quand je dis nous, c'est les hommes politiques, pour faire ce type de traité. Et puis, les successions d'événements ont fait que ça a été retardé. J'ai oublié la question. Alors, le rôle de l'OMC. Alors, on est en train officiellement de négocier depuis des années un nouvel accord de l'OMC. Vous savez que dans l'OMC, on procède par accord, par réunion, et puis on essaye de mettre les 180 pays qui sont dans l'OMC d'accord. Et on a commencé à Doha il y a plusieurs années, et on n'a toujours pas abouti. Donc, ce qui fait que les multinationales sont impatientes et poussent, si vous voulez, à faire des accords bilatéraux entre les grands pays essentiellement, et donc c'est la raison pour laquelle on le fait. Parce que l'OMC, du point de vue des multinationales, n'avance pas assez vite, parce que tout simplement, une grande partie des pays du tiers-monde ont commencé à comprendre qu'ils étaient en train de se faire avoir, et eux, ils freinent, parce qu'ils veulent bien commercer, mais ils veulent quand même pas se faire abuser, ce qui a été assez commun dans l'histoire. Et donc du coup, on sort pas de l'OMC, mais on essaie d'aller plus loin que l'OMC. On ne peut pas revenir en arrière, hein, parce que une des méchancetés de ce type de traité, c'est que lorsqu'il y a toujours une clause dans ce type de traité, lorsque vous l'avez signé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il n'y a pas de rétroaction possible. Ça, c'est une vraie saloperie. D'accord ? Parce que on signe un accord qui sera définitif dans la nuit des temps. Alors là, voilà, là, il y a un vrai déni de démocratie. C'est-à-dire que vous pouvez changer de gouvernement. On s'en fiche. puisque de toute façon, vous avez signé un traité qui ne vous permet pas de pratiquer la politique que vous voulez mettre en place. Voilà l'un des grands problèmes, et j'avais prévu une petite conclusion d'ailleurs là-dessus. J'ai un extrait de l'article 23 du mandat. Il faut prévoir une protection et une sécurité entière pour les investisseurs et les investissements. Michel me faisait tout à l'heure remarquer que je n'avais pas encore abordé, donc là pour maintenant, je répète, il faut prévoir une protection, une sécurité entière pour les investisseurs et les investissements. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que vous ne pourrez plus jamais nationaliser. Une banque en difficulté, vous ne pourrez pas la sauver en la nationalisant. Il faudra lui prêter du fric. Une entreprise en difficulté qui va perdre 10 000 emplois, vous ne pourrez pas la nationaliser pour sauver les emplois. Vous ne pourrez plus le faire si dans l'accord du TAFTA, il est prévu de protéger complètement les investisseurs et les investissements. Et il y a pire encore, et ça, c'est pas écrit, par contre, dans le mandat. Mais en fait, vous ne serez plus libre de votre politique, parce que remarquez bien que tout ce qui est proposé, ça s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'offre. C'est-à-dire, favorisons, voilà le raisonnement, pour moi, il faut. On favorise les entreprises, on leur donne, par exemple, 41 milliards d'euros, d'accord, dans un pacte de responsabilité, en disant, vous allez créer des emplois. Bon. Et puis, on les laisse faire. Mais les entreprises veulent maximiser leurs profits. Pourquoi ? Elles ne vont pas chercher à créer des emplois d'abord. Elles vont d'abord maximiser leurs profits. Bon, ça, c'est la politique de l'offre. La politique de la demande, au contraire, on favorise les consommateurs, les travailleurs, pour donner du pouvoir d'achat aux gens qui vont consommer. Consommant oblige les entreprises à produire. Produisant oblige les entreprises à embaucher. C'est le raisonnement keynésien que vous connaissez tous. Voilà. Bon. Mais cette politique de l'offre, de la demande, pardon, vous ne pouvez plus la faire, parce que pour faire une politique de la demande, il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter les salaires, il faut mieux protéger les salariés. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc en fait, maintenant, ça ne sera plus la peine de voter. Si ce traité passe, ça veut dire qu'on ne peut plus, on peut plus nationaliser. Il faudra au contraire privatiser, on pourra faire de politique de la demande. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'essayent les libéraux et les multinationales, c'est d'inscrire dans le marbre la politique du futur. Et là, ça ne sera plus la peine d'aller voter. Parce que vous pourrez voter pour l'UMP ou pour les socialistes, vous aurez la même politique. Bon, c'est déjà fait, mais... Bon, je recommence. Mais là, si vous voulez, ça sera pire, parce que ça sera inscrit dans les textes. Ça sera inscrit dans les textes, et donc si vous ne le faites pas, vous serez attaquable. Parce qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste pourrait pratiquer une autre politique, il ne serait pas encore attaqué. Voilà. Mais là, on va passer à un stade supérieur. Mais, si vous voulez, ça c'est vrai depuis qu'on construit l'Europe. On essaye d'inscrire, rappelez-vous cette constitution européenne que nous n'avons pas votée, et qui est quand même appliquée. Vous avez vu ce pavé ? Mais ce n'était pas une constitution, c'était une libéralisation du commerce. Regardez la constitution française, c'est un petit livre comme ça, qui prévoit simplement comment est organisée la vie politique, comment on vote, comment on élit, etc. Mais non, en Europe, la constitution européenne, c'est comment on fait du commerce et comment on libéralise. Et une fois que c'est dans une constitution, pour changer une constitution, il faut plus que la majorité. Vous comprenez ? Et à partir de là, ben vous inscrivez le libéralisme dans les règles. Et là, il y a un vrai déni de démocratie. C'est-à-dire qu'on ne servira, les citoyens ne serviront plus à rien. De mon point de vue. Qui a eu l'idée ? Ce sont les multinationales. Alors, j'ai oublié comment il s'appelle. Il y a un lobby bruxellois dont j'ai oublié le nom. Bon, vous savez que Bruxelles est très organisée en lobby. Il y a un lobby bruxellois qui réunit les grandes multinationales européennes et qui est à l'origine d'une grande partie des textes du mandat. Parce que non seulement les multinationales nous poussent un peu, mais elles écrivent carrément les textes. Hein? Aujourd'hui, une grande partie des amendements qui sont proposés au Parlement européen sont écrits directement par les multinationales. Et certains députés les déposent sans les avoir relus. Il laisse passer des fautes d'orthographe, par exemple. Il y a bien des phrases qui n'ont aucun sens.
Mais la loi Macron, c'est pareil. Il me semble qu'il y a des notaires et d'autres qui ont dicté certains arrêts.
Bien sûr, ça se fait en France également. Je prenais Bruxelles pour ne pas vous fâcher, mais bien sûr, ça se fait aussi en France, mais quand même d'une façon moins voyante. À Bruxelles, là, il y a une vraie organisation des lobbies et une vraie acceptation des lobbies.
Par rapport à la politique de la demande, Ken a un peu vieilli, je pense, et du coup, il a mérité d'être modernisé. Je pense qu'il est intéressant de plus parler que de commerce, mais de besoin. Et le besoin, il y a un besoin sociétal, il y a un besoin climatique, donc c'est une demande complète qu'il faut mettre en face. Donc c'est juste une petite remarque. Et justement, c'était bien de venir sur le traité, enfin l'accord constitutionnel européen, parce que c'était exactement les mêmes raisons. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails du pavé pour voter contre, puisqu'il y avait quelques raisons qui étaient rédhibitoires, notamment l'accord et l'unanimité des 26 pays membres pour la changer. Voilà, moi ça m'a suffi pour voter non, même si tout le reste était bon, ça suffisait pour voter non. Et là-haut, pour mémoire, on a rencontré donc, pour la Confédération paysanne un député des Alpes-de-Haute-Provence qui nous a dit « Oui, mais c'est pas tout mauvais dans cet accord. » Voilà, ça c'est la raison qui n'est pas entendable, puisqu'il y a deux, trois, ça suffit, des raisons qui permettent de refuser catégoriquement ce genre d'accord. Il y a les mécanismes de règlement différents, le tribunal privé, il y a le conseil de coopération réglementaire, je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais ce qui permet d'anticiper déjà, c'est-à-dire quand on prévoit les lois, il faut les prévoir en fonction du TAFTA, enfin de ces accords, et donc on ne peut plus avancer. Donc ça, c'est des raisons. On peut après croire ou pas croire aux besoins de croissance, croire ou pas croire, parce que nous, à la Confédération paysanne, on a eu des débats sur « oui, mais peut-être qu'on pourra exporter du lait, ou peut-être que si, ou peut-être que là ». Mais en fait, tout ça, finalement, si on part de ces quelques raisons de base qui sont antidémocratiques, eh ben, je pense que c'est même pas la peine de rentrer dedans.
En effet, il y a des raisons. Il fait allusion à un organisme qui va se mettre en place si on signe le traité, un organisme de régulation, c'est-à-dire que quand les États voudront, enfin, les parlements voudront voter une loi, il faudra d'abord demander conseil à cet organisme de régulation qui vérifiera si la loi que vous proposez est bien d'accord avec le traité. Ce qui est assez cohérent, si vous voulez, en termes de gestion. Sauf que si dans le traité, vous ne pouvez plus rien faire, c'est plus la peine de proposer des lois. Et Yannick a fait allusion à un autre fait que je n'ai pas souligné ici, c'est le problème de l'environnement. Parce que qui est en danger aujourd'hui dans ce type de traité? Ce sont les consommateurs, les travailleurs et l'environnement. Parce que là aussi, l'environnement, ça se protège. Et si vous le protégez trop, vous minimisez le profit des entreprises multinationales et vous serez encore attaquable de par
cette protection. Donc on est dans le problème de profit des multinationales part du principe d'externaliser les coûts. C'est-à-dire, ils ont des coûts de production, mais tous les coûts sociaux, les maladies qu'on peut avoir, les problèmes d'environnement, les inondations qu'on peut avoir si on détruit... tout ce genre de coûts-là, ils sont pris en charge par la société. Si on réintègre les coûts, c'est comme le nucléaire, il n'y a aucune centrale nucléaire qui est assurée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune assurance qui veut prendre en charge les coûts d'un accident nucléaire. Donc on externalise les coûts et qui prendra en charge les coûts, on le voit bien au Japon, c'est l'État. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, les profits peuvent être maximisés. Malheureusement, ça, c'est pas pris
en compte. Non, mais en effet, c'est une façon de transférer la richesse du consommateur moyen, parce que qui paye finalement toutes ces destructions environnementales, c'est l'État. Et qui finance l'État, c'est nous. Donc, on socialise les pertes et on privatise les bénéfices. C'est la règle générale. Alors, on peut le comprendre du côté des multinationales, comme je disais tout à l'heure, mais pourquoi les politiques que nous élisons jouent ce jeu? Ça, c'est le grand mystère, sauf à répondre, oui, mais dans cet accord, en effet, il y a quelques bonnes choses. Mais si on vote toutes les lois dans lesquelles il y a quelques bonnes choses, comme la loi Macron, il y a quelques bonnes choses, forcément, vous en trouverez toujours, c'est un fourre-tout. Bon. Mais si vous votez comme cela, et si un député vous répond ça, je vous conseille de ne plus jamais voter pour lui. Il faut vous présenter. Vous faites Podemos ou Syriza, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Moi, je fais professeur.
Est-ce que le Parlement européen n'a pas moyen d'intervenir au niveau de la Commission pour que, justement, justement l'information se diffuse en masse.
Mais le Parlement européen n'a pas envie. Le Parlement européen. Oui, on les a élus, oui, on les a réélus d'ailleurs. Mais ceux qu'on avait élus avant ont voté le 13 mai 2013, donc avant que les négociations commencent, avant que le mandat soit fait. Ils ont voté le principe de la négociation sans savoir ce qu'il y avait dans le mandat, à 78%.
Ils ont voté le principe du secret ?
Ah non, le principe de la négociation.
Oui, mais d'accord, donc le silence.
Oui, mais ils ne savent. Oui, mais attendez, le mandat, il a été fait par la Commission. La Commission ne l'a pas fourni au Parlement. Les parlementaires n'ont pas eu ce petit truc-là. Ils n'ont pas eu. C'est simplement, c'est le premier qui l'a sorti, c'est Patrick Lujarric, un député européen, qui l'a piqué sur un ordinateur quelconque et qui l'a publié. Mais les parlementaires européens eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Ils ont accepté de voter quand même.
Sur la démarche de
la voilà, je ne dis pas plus.
Je voulais savoir, vous avez donné l'exemple de Veolia en Égypte et de Restigouche au Québec. Est-ce qu'il y a des chances pour que ça aboutisse la somme qu'il avait demandée ou de baisser les salaires en Égypte?
Ah, les Égyptiens, enfin le gouvernement égyptien n'est pas prêt à baisser les salaires. Par contre, il serait peut-être. Il risque d'être obligé de payer l'amende, en effet, si vous voulez.
Payer l'amende.
Ah oui, 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 après c'est fini. D'accord ? Mais les amendes peuvent être extrêmement élevées. Et alors, c'est possible puisqu'il y a déjà eu des cas nombreux dans le cas de l'ALENA où les États ont vraiment payé des dizaines de millions d'euros, dollars parfois.
C'est...
Comment ?
L'Équateur.
L'Équateur a payé. Non, mais plein d'États ont payé déjà. Donc non, c'est vraiment un danger, c'est vraiment une possibilité.
Justement, pour aller dans le bon sens, nos gouvernants...
Je vais répéter la question, vas-y.
Pour aller dans le bon sens,
oui.
Gouvernants de tous les pays européens et des États qui sont concernés par cet accord, ils vont être sensibilisés aux problèmes, aux risques, aux pièges prévus dans cet accord. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aller vers un droit international ou un droit supranational qui va faire que ça va permettre de niveler par le haut les accords et d'éviter ce type d'accord privé ?
Ah oui, alors bon, la question c'est de savoir si on va niveler par le haut ou par le bas.
Oui.
Parce qu'en effet, si on avait un droit international suffisamment protecteur pour que tous les pays soient dans une vraie concurrence, je dirais c'est parfait. Mais en fait, on le voit bien dans le cadre de l'Europe. On n'a pas de nivelé par l'euro. D'accord ? Il y a encore des pays européens qui n'ont pas de SMIC. Donc l'harmonisation par l'euro, elle se fait très difficilement. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les élus qui négocient, ce sont les multinationales. Pourquoi voudriez-vous que les multinationales proposent un nivellement par l'euro ? Ça serait incohérent de leur part. Donc si on nivelle, malheureusement, on va niveler par le bas, ou on refusera. Je pense profondément que c'est la logique. Je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Ça ne me paraît pas possible, mais il y a déjà eu des accords de ce type, et donc il ne faut quand même pas en prendre le risque. Mais le nivellement par le haut, je pense que ce n'est pas possible.
Hollande, quand il est allé voir Obama aux États-Unis, d'après ce que je sais, il a dit à Obama, il faut vite qu'on fasse ce traité pour pas avant que la population soit au courant.
Ce que tu dis est absolument exact. Il y a quelques mois, en effet, François Hollande a dit à Obama « Il faut rapidement signer le traité avant que les peuples ne bougent. » Je ne sais pas comment était la formulation exactement, mais en effet, c'est ça. Ils veulent aller très vite. Il y a une réunion qui vient de se terminer là, il y a quelques jours où ils ont décidé d'accélérer le mouvement parce qu'ils sentent bien que la mayonnaise commence à prendre dans la population. Et donc, il est prévu que pour le mois de juillet prochain, on soit très proche de l'accord. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur le tribunal. Donc, ça va forcément retarder. Mais en effet, il y a une tentation pour aller plus vite. Mais il faut-il encore qu'il puisse se faire.
Monique. C'est justement, ça continue dans ce sens-là. Tu disais tout à l'heure que la mayonnaise avait quand même aussi du mal à prendre. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise parce que et qu'on démultiplie ce genre d'information et de sensibilisation parce que c'est le rapport de force des citoyens qui fera bouger les choses, comme on l'avait fait pour l'AMI, on le rappelait, ou pour la Constitution européenne, enfin pour le nom à la Constitution européenne. Donc je pense qu'il faut qu'on développe son rapport de force. Alors, comment on va pouvoir le développer quelles sont les initiatives qui peuvent être prévues dans le département ou au niveau national et européen pour bouger les choses et pour faire entendre la voix citoyenne pour empêcher finalement cela, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. Si on attend que, comme tu disais, bon, peut-être que sur la question des tribunaux, il y en a qui sont pas d'accord, mais on ne peut pas se contenter de ça, de cette attente-là. Il faut donc qu'on se mobilise.
Alors, en effet, je crois que... Pardon ? Oui. Alors, que faire ? Posons en effet une question fondamentale, que faire, nous qui sommes là et qui sommes apparemment plutôt inquiets de ce qui va se passer ? Alors, d'abord, faire remarquer qu'on est dans une situation plus complexe et plus difficile qu'en 2005. En 2005, on avait un texte, la Constitution européenne. Donc on pouvait se balader avec notre petit livre sous le bras et aller dans toutes les communes du département et dire voilà ce qu'il y a dedans et voilà quels sont les dangers. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main pour dire ce qui va se passer. On risque de savoir au dernier moment et on n'aura pas le temps de réagir. Alors, que faire ? Bon, je crois qu'il faut, en parler autour de vous. Vous avez appris les trois méthodes de plus ce soir, peut-être. Promenez-vous avec votre quiz, amusez-vous en famille. L'important, c'est que pour l'instant, c'est que les gens entendent ce mot TAFTA. Parlez de TAFTA. Alors, voilà, tous les dimanches midi, au repas du dimanche midi, vous avez obligation de prononcer le mot TAFTA deux fois. Alors, le jour de Noël, c'est simple. D'accord ? Voilà. Parlez-en. Dites ce mot TAFTA. Stop TAFTA, c'est mieux. Après, si on vous pose deux, trois questions, dites, voilà, ben moi, ce que je crains, c'est ça, en fonction de votre sensibilité, de votre secteur où vous travaillez. Allez-y, allez-y. Faites le colibri. Vous savez, celui qui transporte une goutte d'eau à chaque fois, qui puis finalement remplit une citerne. Bon. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup mieux à vous proposer, parce que les médias répercutent mollement. La télévision n'en parle pratiquement jamais. Et donc, il faut qu'on passe à la base. Parce que le jour où le traité va sortir, quand les gens auront entendu TAFTA auparavant, ils vont peut-être réagir. S'ils ne l'ont pas entendu parler auparavant, ils ne vont pas bouger. Ce que je vous dis là est un principe de communication simple. Les publicitaires font ça. Un mot simplement, pas d'explication éventuellement. Vous répondez aux questions si les questions arrivent. Mais parlez du TAFTA à tout le monde, le plus possible.
De nombreuses collectivités ont pris déjà du temps.
Alors, bien sûr. Alors nous, ce que nous avons fait, parlons de notre... Je vous dis deux mots de notre collectif, parce que ce soir, nous représentons la collectif. On est une vingtaine de syndicats, partis politiques et associations, dont ACAF qui organise ce soir. Et donc, on a déjà écrit il y a 6 mois, on a envoyé un courrier à tous les maires du département avec un texte d'explication qui prend une page comme ça. Il est encore dans les mails, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, qui cherchent un peu, ils vont le trouver. On leur proposait de prendre une motion contre le TAFTA. On leur expliquait pourquoi il fallait prendre cette motion. Et donc, il y a déjà des communes, des régions qui ont pris des motions contre Stop TAFTA. La région PACA a voté quasiment à l'unanimité. Même le PS a voté pour faire une zone hors TAFTA. Il y a ensuite deux... Bon, je ne vais pas vous les citer, mais il y a quelques communes dans le département, dont Thoire, par exemple, que je vois là, où on était il y a quelques semaines. Donc, alors, parlez-en à vos maires, parce qu'on sait, par exemple, que certains maires, certains conseillers municipaux ne sont pas encore au courant. Donc, parlez-en pour qu'ils en discutent, et puis, plus il y aura de gens qui le font, mieux ça sera. Et après, on risque, dans quelques temps, de vous mobiliser pour des actions, manifestations, blocages de grandes surfaces, je ne sais quoi, pour se faire voir. Donc on essaiera de vous faire réagir. Donc soyez à l'affût et puis diffusez, puisque les journalistes ne font pas toujours ce qu'il faudrait pour que tout ça soit mis en œuvre.
Ouais. Je veux juste savoir, les zones hors TAFTA dont vous parliez tout à l'heure, ça a une vraie valeur ?
Non, c'est absolument symbolique. C'est uniquement symbolique. Bien sûr, on ne peut pas. Si un traité européen est signé, on est tous dans la zone TAFTA. Quand pour l'instant, on fait des motions symboliques disant qu'on n'est pas d'accord avec. Mais en effet, ça n'a aucune conséquence juridique.
Y a-t-il des sites internet pour avoir des affiches, posters,
stickers ? Oui. Vous faites TAFTA sur internet, vous allez vous retrouver sur un tas de choses. Ça, je vous le garantis. Bon, si vous voulez éventuellement vous avoir des informations qu'on puisse vous transmettre, on a mis une petite feuille là. Vous mettez votre nom et votre mail. Et nous, on vous enverra des informations sur les activités locales. Donc, par exemple, je peux vous dire qu'on va faire une conférence du même genre sur Fort Calquier, c'est prévu en avril, à Réanne, c'est prévu également au mois de mars, à Comps, dans le Var, c'est pas notre territoire, mais on a été invité, je pense qu'on va y aller, bien sûr. Donc on répond en fait à toutes les demandes. Si vous entendez dans des communes où ils ont besoin d'informations, il suffit de nous contacter, Attaque 04 qui diffusera auprès du collectif. On essaie de répondre à toutes les demandes qu'on nous fait dans toutes les communes, et pour l'instant on n'a pas refusé, et on se dépassera autant qu'il le faudra pour faire de la diffusion et de l'information.
Et puisqu'on est en période électorale, on peut aussi interpeller les candidats.
Parler du taffetas aux candidats, certains ne sauront pas de quoi vous leur parlez, vous leur expliquerez, comme ça vous ferez campagne à leur place.
Mais je ne sais pas si, mais dans les lycées, prévoir des créneaux, enfin, à qui vous s'adressez, mais prévoir des créneaux pour expliquer ça aux lycéens, quoi. Et après eux, c'est une institution.
Là, c'est un peu plus compliqué, mais disons que les lycéens, si on est invité par les foyers socio-éducatifs ou les associations d'élèves, on répond. J'ai déjà répondu à Sisteron, par exemple, où j'étais dans un lycée, mais là, c'est le lycée qui doit en faire la demande, parce qu'il y a une procédure qui est un petit peu plus complexe quand même. Parce qu'on ne peut pas faire de propagande, donc il faut là être beaucoup plus prudent. Mais en effet, c'est une possibilité. On arrête là. Bien, je vous remercie.